On avait commencé une série, on va continuer ce soir sur la mission. Et on avait introduit la mission en parlant que Dieu nous a confié une mission. Dieu nous a confié quelque chose entre nos mains quand on est devenu ses enfants, qui fait en sorte que toute notre vie prend un sens. Toute notre vie prend un sens puisque la mission que Dieu nous confie, c'est le but vers lequel on s'en va. Alors, on marche avec Dieu. On marche vers ce que Dieu place devant nous. On avait vu, par exemple, la mission mondiale que Dieu veut que l'Église, que son œuvre continue de proliférer et que les Églises prennent de la place jusqu'aux extrémités de la terre. Et on avait vu l'exemple de Paul. On avait vu que, par exemple, nos familles sont aussi la famille de Dieu, nos cercles proches sont des milieux aussi dans lesquels la mission va s'exercer. On voyait par exemple notre assemblée, comment est-ce que les uns envers les autres, comment est-ce qu'on a un témoignage aussi important pour que notre témoignage soit conforme, notre témoignage en action, ben confirme notre témoignage de notre bouche aussi, que les deux soient cohérents. Et je disais que si on a une mission, c'est quelque chose qui donne du sens à nos vies. Si on parle d'un marathonien, et il court, et puis il s'en va vers le but, vers l'objectif vers lequel il court, bien, il va constamment se dire, c'est vers là que je m'en vais. Et il va se rappeler sa motivation que de persévérer, de continuer, et même si ça nécessite beaucoup de transpiration, il va continuer de lever les yeux. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on perdrait le goût de courir? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on perdrait le focus? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on peut perdre le focus de ce qu'on est en train de marcher avec Dieu? On est en train de perdre le focus de la mission que Dieu nous confie. Julie? La souffrance? Ouais, absolument. La souffrance. Oui, vas-y, Claude, après ça, Hugues. Ouais, on regarde ce qui nous manque et on manque de contentement. On regarde ce que les autres ont, ce que j'ai pas. Et finalement, c'est ça. Oui, Hugues. Ouais. On utilise nos propres forces. On laisse pas Dieu vivre en nous. On se laisse pas conduire par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Et finalement, on prend ces fardeaux-là qu'on court avec, qu'on aurait dû laisser, qu'on devrait continuellement laisser à Jésus. Adieu. C'est tout ça que tu voulais dire? C'est une très bonne réponse, Hugues. Oui, absolument. On peut être dans la mission, on peut être pleinement engagé, on peut marcher, on peut avoir ce sens que Dieu donne à nos vies, puis arrive la souffrance, arrive la perspective que finalement, peut-être le manque de contentement, ou le fait que finalement il y a des fardeaux que j'ai pas laissés, ou il arrive le fait que je veux être fidèle avec Dieu, puis finalement, je vis l'opposition. Je vis de l'adversité. Je réalise qu'il y a un combat à mener contre l'ennemi et que ça peut m'apporter du découragement aussi. Et c'est important d'avoir dans une perspective de mission, la mission que Dieu confie à nos vies, de comment faire face à l'adversité. Parce que dans nos vies, il va toujours y en avoir de l'adversité. Même si on marche avec Dieu, et je dirais même, en plus, parce qu'on marche avec Dieu, parce qu'on marche pour Jésus. Il va y avoir de l'adversité. Mais comment est-ce qu'on fait face à l'adversité? Quand il arrive, quand l'ennemi arrive, ou quand le découragement arrive, ou l'adversité arrive à cause de notre témoignage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse les bras? Où on va chercher nos ressources? Je vous invite juste en guise d'introduction à tourner avec moi, peut-être une personne. Tournez avec moi dans. Tout le monde tournez avec moi dans 1 Pierre 3. On va l'avoir. Une personne qui voudrait tourner dans Acte 23, verset 11, s'il vous plaît. OK, Daniel, Acte 23, 11. Les autres, vous pouvez tourner avec moi dans 1 Pierre 3. Tu veux-tu lire, Daniel? OK. Et c'est un verset. le Seigneur apparaît à Paul. Paul vient de rendre témoignage à Jérusalem. Il a vécu des souffrances, puis là, le Seigneur lui apparaît. Puis qu'est-ce qu'il lui dit comme encouragement? Prends courage, parce que tu auras aussi à rendre compte en d'autres endroits. Paul vivait de l'adversité, c'est un exemple pour nos vies. On va en vivre de l'adversité face à l'Évangile que l'on a. Et mais ce que Dieu nous dit, c'est de prendre courage. Oui, il y en a de l'adversité, mais on peut y faire face avec les moyens que Dieu nous donne aussi. 1 Pierre 3, on va lire les versets 8 à 17, si vous voulez bien. Quelques questions d'introduction avant qu'on lise, juste pour qu'on puisse se placer. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition à notre foi? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition à l'Évangile? La question peut paraître banale, mais quand on la vit, c'est quoi la réponse qu'on en a? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition à notre foi? Comment tu as dit ça? Il y a un grand adversaire, absolument. Oui. Quoi d'autre, Hugues? Oui, oui, absolument. De voir le témoignage fidèle peut en quelque sorte apporter les autres à persécuter ce témoignage-là parce que ça peut être accusateur, c'est ce que tu dis, ce que je comprends. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous êtes devant l'adversité. Vous partagez votre foi. Vous vivez votre foi. On parlait la dernière fois qu'on en a parlé d'avoir non seulement des paroles, mais un témoignage fidèle. Vous vivez votre témoignage. Puis, vous avez de l'adversité à cause de ça. Qu'est-ce que vous faites avec l'adversité? Qu'est-ce que vous faites avec les gens près de vous qui se moquent, qui, peu importe quelle forme d'adversité ils font, qu'est-ce que vous faites avec eux? OK. Oui. Gardez le même comportement. Paul, je pense que c'est précis après. Continue de manifester de l'amour. Autant que cela est possible. Oui, absolument. T'avais-tu levé la main tantôt pour ça? Oui. 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 Absolument. Richard? Oui. Oui. Oui, absolument. Absolument. On va regarder le texte et puis ça va résumer en même en quelque sorte les commentaires que vous avez dit. Regardez les versets, on va lire 8 à 17. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire ça quand même assez fort? OK, voyons, Michel. OK. Est-ce que vous avez compris le terme du texte qu'on vient de lire? Faire le bien et de ne pas faire le mal. Versus les gens qui font le mal, qui ne font pas le bien. Est-ce que ça se peut qu'en faisant le bien, on souffre? Ben, c'est ça que le texte vient de dire ici. On voit quatre bonnes raisons pour faire le bien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Que Dieu nous encourage pour faire le bien. Une première bonne raison dans le verset 9. On est appelé à quoi? À faire le bien. Je vais lire le verset 9. Ne rendez point le mal pour mal. C'est quoi notre tendance naturelle? Quand quelqu'un me donne une claque sur la joue gauche, ben j'y rends. C'est la tendance naturelle. C'est évidemment pas l'enseignement de Jésus, hein, vous êtes d'accord? Ça, c'est l'enseignement, c'est pas l'enseignement, je veux dire, c'est l'attitude naturelle que l'on a, de rendre le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Qu'est-ce que je fais quand je subis le mal? Quand quelqu'un m'injure, qu'est-ce que Dieu me dit? Bénis-le. Dis du bien de lui. Fais-lui du bien. Est-ce que c'est facile? Eh boy, hein? Non, c'est pas facile. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé afin de quoi? Afin d'hériter la bénédiction. Pourquoi je vais faire le bien quand quelqu'un me fait le mal? On a été appelé à ça afin d'hériter la bénédiction. Il y a du bien à recevoir en faisant du bien aux gens qui me font du mal. Voulez-vous que je le répète là? Il y a du bien à recevoir. Dieu me bénit quand je rends le au mal, quand je rends le bien au mal. C'est ce que Dieu me dit. OK, regardez une deuxième bonne raison au verset 10. Pourquoi je vais faire du bien? Qu'est-ce que vous constatez? OK, pour aimer la vie, pour voir des jours heureux, mais qui préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses. La calomnie, le mensonge, on en avait parlé un petit peu la dernière fois aussi. Dieu me demande, la personne qui me fait du mal, que ce soit en calomnie ou qui m'injure, Dieu, ce qu'il veut que je fasse, c'est si quelqu'un en effet veut aimer la vie, puis voir des jours heureux, mais qu'il préserve sa langue du mal, puis ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ce que Dieu s'attend de nous, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est, bon, on l'avait vu un petit peu avec Jacques aussi, qu'on s'éloigne du mal, qu'on recherche la paix. Les gens qui nous calomnient, les gens qui créent l'adversité à cause de notre foi, c'est quoi qu'ils cherchent? Nous faire tomber, nous faire déstabiliser. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens qui pourraient nous faire du mal à cause de notre foi? Nous faire sortir de nos gonds. Hein? Je le savais, finalement, tu étais de même dans le fond. Hein, c'est quoi qu'ils cherchent? Ils cherchent la guerre, ils cherchent peut-être la bataille, comprenez, la bataille d'arguments ou de nous faire sortir de nos gonds. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Oui, Ghislain? Absolument. Oui. C'est ça. Et de se rappeler ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce que Dieu nous appelle, c'est justement d'être nous dirigés par son esprit, comparativement au monde, comme tu viens de dire, Justin, ils ne sont évidemment pas dirigés par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de ce monde. Alors Dieu nous appelle, verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça devrait être notre attitude. C'est ça qu'on devrait rechercher. Poursuivre la paix. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'elle vient à nous, simplement, sans rien faire? Hein? Ouais. De courir après, jusqu'à temps qu'on la rattrape, de la rechercher, de la poursuivre. Et évidemment, autant que cela nous est possible, aussi, il y a des textes qui nous disent d'être en paix avec tous, autant que cela nous est possible. Une autre bonne raison aussi pourquoi Dieu veut nous encourage à faire le bien, verset 12, c'est quoi? Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Quoi d'autre? Ses oreilles sont attentives, mais la face, tu disais, Céline? Ça veut dire quoi, ça? Pas obligé de faire ta justice? Comment est-ce que ça, Renan? Dieu va s'en occuper. Exactement. Est-ce que je suis abandonné quand je suis dans l'adversité? Est-ce que Dieu m'envoie dans la mission? Dieu veut que je vive pour lui. Dieu veut que j'aie une foi intègre. Puis tout à coup, je suis devant l'adversité. Dieu, est-ce qu'il est encore là? Ben oui. Les oreilles, les yeux de Dieu sont attentifs à ses enfants. Et Dieu ne nous a pas oubliés. Il est présent. Mais peut-être que dans un moment d'adversité, on disait, c'est quoi qui nous fait, par momentané, de façon momentanée, des fois, oublier notre mission? Bien, c'est qu'on perd le focus. Peut-être qu'on oublie que Dieu est attentif à ses enfants. Peut-être qu'on oublie que Dieu a ses yeux sur nous, ses oreilles sur nous aussi. Et comme vous avez dit, bien, finalement, Dieu va s'occuper de ses enfants, puis Dieu va s'occuper de ceux aussi qui poursuivent le mal. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu va s'en occuper. Regardez verset 13. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? » Si vous avez le témoignage que Dieu nous appelle à vivre, la vie de l'Évangile que Dieu nous appelle à vivre, c'est une vie de bien. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est « Qui va vous maltraiter si vous êtes zélé pour faire le bien? » Alors, naturellement, logiquement, on ne va pas faire du mal aux gens qui font le bien. Mais il va continuer quand même. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Pourquoi ça? Pourquoi je suis heureux de souffrir même si je fais la justice? Oui, je l'ai. Parce que quoi? Ouais, je m'en vais dans la bonne direction. Oui, je l'ai. Oui. 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 Parce que notre vie conserve le sens que Dieu nous a donné. Si je souffre pour la justice, vous seriez heureux. Si je poursuis la mission que Dieu me donne, et que même malgré l'adversité, je continue de poursuivre le bien, de faire le bien, de souffrir pour la justice, mais je vais être heureux. Dieu a jamais associé l'absence de souffrance au bonheur. Dieu n'a jamais associé l'absence de souffrance au bonheur. Mais par exemple, une marche fidèle avec lui, un attachement de cœur avec lui, qui fait que finalement, je vais trouver ma joie de marcher aussi avec lui, malgré qu'il y ait de la souffrance. On pourrait citer plein d'exemples, on va en avoir quelques-uns tantôt, mais c'est ce que Pierre nous encourage. N'ayez deux, aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » On avait vu aussi le verset, le mot ici « défendre », c'est le mot en grec qu'on dit « apologia », puis on connaît le sens que ça a de l'apologétique, qui veut dire la défense de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que croyants que d'être toujours prêt à défendre notre foi, d'être toujours prêt à faire l'apologie de notre foi? Qu'est-ce que ça implique, ça, dans ma marche avec Dieu? Qu'est-ce que ça implique pour moi ce soir, demain, au courant de la semaine, que d'être toujours prêt à défendre ma foi? Justin? Oui. 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 Oui, absolument. Oui, j'apprécie ce que tu dis. Comment ça se défend, la foi? Est-ce que pour ne pas trop froisser mes prochains à cause de l'Évangile que je vis, je vais atténuer un peu les discours bibliques, si je peux dire, atténuer un peu le message, diluer un peu les standards de Dieu pour que ça choque pas trop. Et évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ça, là. Je pense pas que c'est ça l'attente de Dieu. Oui, Michel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça? C'est ça, absolument. Ça implique deux choses. Il y a beaucoup à apprendre et nous devons être prêts à l'avance pour fournir des réponses solides, substantielles, en rapport à notre foi. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'être des docteurs qu'on a tout compris? Non. Mais la foi, évidemment, se vit, l'Évangile se vit, mais elle se défend aussi. les Écritures nous disent qu'on on doit être prêt à défendre notre foi. Mais qu'est-ce que je connais de la foi que je vais être capable de défendre logiquement, clairement, puis exposer aux gens? Il y avait Justin, tu veux dire quelque chose, et après ça, Renat. Ouais. 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 Oui, c'est ça, absolument. Oui. C'est ça. C'est ça. Il y a des concepts dans l'Évangile qui bousculent, qui confrontent, qui font mal, mais Dieu me dit, expose-les, défends-les, mais avec respect et douceur. Et la personne est confrontée elle-même à l'Évangile, et après ça, c'est avec Dieu qu'elle s'organise, mais le message doit demeurer. L'Évangile doit demeurer pur. Oui, M. Dumont. Oui. Ben oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et l'Évangile, il est solide, lui. L'Évangile, il demeure. Mais ma vie, mes pensées, mes idées vont changer constamment, mais l'Évangile demeurera toujours vrai, et c'est sur ça que repose notre foi aussi. Absolument. Et puis, on voyait une chose, une première chose que ça implique. On disait que ça implique d'être prêt à défendre notre foi d'une façon logique, d'une façon substantielle. Mais aussi, ce que le texte nous révèle, c'est que même ayant un discours gracieux, une vie remplie, comme on voyait, d'œuvres bonnes associées à l'Évangile et à nos paroles aussi, notre défense se fera immanquablement devant un public hostile. Ce que ça veut dire, c'est que je peux vivre fidèlement pour Dieu, je peux m'attacher à Dieu, puis je vais quand même vivre de l'hostilité, quand même vivre des difficultés. Dieu m'a pas promis de ne pas vivre d'adversité à cause d'un témoignage fidèle. Et même c'est le contraire. Étienne, comment est-ce qu'il a défendu sa foi avant d'être lapidé? C'était clair, hein? Si on prenait le temps de lire le discours qu'Étienne a fait au chef religieux qui était là, sa foi en Jésus, elle était très claire. Regardez le plan de Dieu là, à partir là, d'Abraham. Je ne me souviens pas jusqu'où qu'il remonte, là, mais c'est dans le proche de là. D'Abraham, puis comment est-ce que Dieu a tout orchestré pour après ça avoir une période sous la loi, puis après ça amener Jésus-Christ, puis après ça qui est venu nous sauver, et ce Jésus-là que vous avez crucifié. Et là, c'était trop, là. Là, ça grinçait des dents. Mais le message était très clair. Et Étienne pouvait se permettre peut-être moi je peux dire, cette confrontation-là un peu plus serrée avec les chefs religieux, là, parce que c'est eux qui devaient bâtir, ils avaient une responsabilité. Mais Étienne a exposé sa foi. Étienne, il vivait pour Jésus, puis il a été lapidé. Malgré sa foi, il a vécu l'adversité. Est-ce que c'était la fin? Est-ce que le livre est fermé pour Étienne à ce moment-là? Mais non, parce que l'espérance que l'on a, évidemment pas sur la terre, évidemment pas ce que l'on a ici. Vous souvenez-vous, Paul, à l'Areopage, il était à Athènes, et puis là, il y avait toutes sortes de philosophies, toutes sortes de groupes, puis là, hey, tu sembles avoir une nouvelle doctrine. Viens-t'en, là, viens nous exposer ça. Toujours prêt à défendre sa foi. Paul était toujours prêt. Devant des gens qui sont pas des juifs, qui n'ont pas le même arrière-plan que lui. Et Paul, vous pourriez lire Acte 17, là. Et Paul, il s'en va à l'Aréopage, et puis commence à exposer l'Évangile, en commençant avec la création du monde. Regardez tout ce que vous avez autour de vous. Regardez comment le bien que vous avez reçu, regardez, c'est Dieu qui dispense le bien sur vous. Et là, Paul s'est mis à parler de Jésus et de cet homme que Dieu a ressuscité. Et là, oh! Hein, résurrection. Oh! On t'entendra là-dessus une autre fois. Laisse faire. Puis là, le monde a commencé à rire. Puis, mais le texte dit quand même à la fin de Acte 7 qu'il y a quelques-uns qui ont cru. Peut-être que la foule qui était là se sont moqués de lui. Il était toujours prêt à défendre sa foi. Il y a eu de l'adversité, mais il a fait exactement comme ce que Pierre encourage, nous encourage aujourd'hui de faire, d'être prêt à défendre notre foi malgré l'adversité et de vivre fidèlement jusqu'au bout. Et le résultat, Paul n'a pas eu une conversion de 3000 âmes cette journée-là. Quelques âmes, ça dit, ils sont même cités, là, Denis, puis quelques autres comme ça, là, sont quelques-uns à avoir donné leur vie à Jésus. Mais c'est quand même très bien, là. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Et c'est ça. Et même s'il n'y en avait pas, c'est ça. C'est ça, absolument. Et par ce témoignage fidèle-là, des gens vont comprendre l'Évangile. Et s'il n'y en avait pas qui nous suivaient, bien, on va être heureux quand même de continuer, même de souffrir pour la justice. Oui, absolument. Je veux juste finir. Finalement, une dernière bonne raison qu'on voyait au verset 15, bien, c'est de le témoignage que l'on rend dans l'adversité est placé dans un contexte. Le contexte qu'on lisait tantôt des versets 8 à 17, c'est le bien que l'on fait, le bien qu'on dispense en tant qu'enfant de Dieu auprès de nos adversaires, des gens qui ne veulent pas entendre l'Évangile. Dieu nous demande de faire le bien autour de nous et que nos adversaires, finalement, soient peut-être confondus à cause du bien, justement, que l'on fait. Et le fait de défendre notre foi, bien, se fait dans le contexte du bien que l'on fait. De ne pas rendre le mal par le mal, injure pour injure, mais de faire le bien quand on reçoit le mal. Vous connaissez le proverbe, hein? C'est comme de faire le bien à notre ennemi, c'est comme de lui mettre des charbons ardents sur sa tête. Ça doit être assez inconfortable. Tournez dans Daniel, un texte que vous connaissez bien. Chapitre 3. Pourquoi? C'est la question que je vais vous poser après le texte. Pourquoi? Daniel 3, 14. On va commencer au verset 14. On lira peut-être pas jusqu'au verset 26. Au moins jusqu'au verset 18. Quelqu'un voudrait lire ça? 14 à 18? C'est l'autre. OK, attends un petit peu, Claude. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Répondez pas. Qu'est-ce que tu dis, Richard? On peut-tu continuer de lire? Mais on peut se poser la question, hein? On peut se répondre pour nous-mêmes, là. Mais dans cette situation-là, et là, c'est une situation extrême. Leur vie est en jeu, là. La prochaine action qu'ils font, c'est soit pour la vie, soit pour la mort. S'ils sont fidèles à Dieu, ils pourraient perdre leur vie. Puis si finalement ils écoutent ce que Nebuchadnezzar leur demande, bien, ils pourraient conserver leur vie. On connaît la suite de l'histoire, là. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Où on en est dans notre marche avec Dieu, dans notre témoignage fidèle, pour savoir où on en serait, nous, si on se place dans leurs souliers? quelle foi est-ce qu'ils avaient. Je pense que c'est un élément clé aussi de notre persévérance. Quelle foi est-ce que l'on a en Dieu quand vient cette adversité-là? Est-ce que tu veux continuer, Claude, s'il te plaît? Et juste en terminant la dernière phrase que tu lisais, avant que tu continues, là, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Quelle prétention, hein? Quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Mais eux autres, il y avait une réponse. Continue, Claude. C'est quoi leur réponse? Eux, ils vivent pour Dieu, ils marchent pour Dieu. Et qu'est-ce qu'ils répondent à Nebuchadnezzar? T'as pas besoin de réponse, on te répondra pas là-dessus. Mais qu'est-ce que ça dit, Richard? Oui. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette foi-là en Dieu? En quoi est-ce qu'ils espèrent? Dans la réponse que l'on voit là, en quoi est-ce qu'ils espèrent? En Dieu? Oui, absolument. Ils ont effectivement vraiment confiance. Puis qu'est-ce qu'ils espèrent de Dieu? Les délivre. Oui. Dans ma version, j'ai « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Quel Dieu peut vous délivrer de ma main? C'est ça qu'il disait là. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et puis ils répondent, Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente, mais Dieu nous délivrera de ta main. Et ça, ils étaient certains de ça. Est-ce que ça se peut que Shadrach, Meshach et Abednego seraient morts dans la fournaise? Est-ce que ça aurait voulu dire que Dieu n'aurait pas répondu? Hein? Comme Étienne, il est mort dans sa foi. Absolument, oui. 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 C'est ça. Oui. Oui. Daniel. Oui. C'est ça. On aurait pu regarder plusieurs exemples dans les Écritures de gens qui sont morts pour leur foi ou qui ont été persécutés à cause de leur foi. Dans Daniel, on en voit plusieurs bons exemples, justement. Et puis, de voir la réaction. Regardez, on va juste continuer quelques versets. Verset 19. « Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. » Lui, là, il était en furie. Il était en furie et c'était l'adversaire qui était sur le champ qui allait les exterminer. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. Verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats, parce qu'il faisait chaud, de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et là, on connaît la suite, mais Dieu les a délivrés de la fournaise. Dieu les a délivrés, mais ils avaient cette foi-là en Dieu qui... Malgré leur marche fidèle, ils ont été devant l'adversité. Ma question, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que même dans la fidélité, on posait un peu tantôt la question, est-ce qu'on peut être dans l'adversité? Ou est-ce qu'on peut être devant des gens qui finalement, eux veulent notre mort? Ou dans le cas de Daniel, là, dans le livre de Daniel, pourquoi est-ce que si je marche avec Dieu, des gens pourraient me vouloir du mal. Regardez Jean 15 avec moi. On va revenir dans le Nouveau Testament. Quelqu'un veut lire les versets 18 à 21? OK, Richard. Ouais. OK. En quoi est-ce que cela, ça m'encourage? En quoi est-ce que cela, ça m'encourage les paroles de Jésus à dire, oui, je vais être haï du monde, mais je vais quand même être encouragé à cause de ces paroles-là. Oui, Claude? Quelqu'un dit, t'es pas du monde, c'est encourageant pour toi? Oui. En quoi est-ce que ces paroles-là sont encourageantes pour l'enfant de Dieu, pour le disciple de Christ? En quoi est-ce que c'est encourageant que Dieu me dise ça, Gaëtan? Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, absolument. Alors, il nous a avertis d'avance, et on sait que ça nous arrive, mais il nous en avait prévenu aussi. En quoi est-ce que cela, ça nous encourage, ces paroles de Jésus? Ben, il nous a avertis d'avance, il nous l'a dit, et à quelque sorte, comme on vient de dire, on est identifié à lui. Si le maître a souffert, Jésus a souffert, il est mort, il a été crucifié à cause de l'Évangile, à cause du message qu'il apportait. Et si Jésus a souffert, ce qu'il dit, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils connaissent pas celui qui m'a envoyé. Fait que finalement, on est identifié à Jésus. Si Jésus a souffert ça, évidemment, on va souffrir aussi. On pourrait se poser la question, pourquoi Dieu, si je marche avec toi, pourquoi Dieu, si je veux obéir, pourquoi est-ce que je vis l'adversité? Pourquoi est-ce que je vis la persécution? Pourquoi est-ce que les gens se moquent de moi à cause du témoignage que je veux vivre? Mais Dieu me l'a averti d'avance. Il me dit, tu vas vivre ça à cause que moi, je l'ai vécu moi-même aussi. C'est pas c'est un bon message. C'est un message qui transforme nos vies, qui nous donne la vie aussi, mais que c'est un message que beaucoup de gens refusent d'entendre aussi. Quel encouragement est-ce qu'on trouve dans la difficulté, dans l'adversité? Quand on est dedans, quels sont les encouragements que l'on peut trouver? La paix? Comment la paix? Ouais, il est tout en contrôle, on n'a pas à se préoccuper de rien. Qu'est-ce qu'on trouve comme encouragement quand on est dans l'adversité? Quand ça va mal? Oui, Bastien. OK, et Dieu va s'organiser à faire continuer son œuvre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, Claude. Ouais. C'est ça. Eh bien, exactement. Puis Pierre disait la même chose. Il s'en remettait à celui qui avait le jugement et il s'en remettait finalement à son Père. Et de la même façon, on s'en remet aussi à Dieu. Le croyant, 1 Thessaloniciens 3, 2 et 3 nous dit que le croyant ne doit pas être ébranlé. Je vous cite pas le texte, là, mais je cite l'idée qui en ressort. Le croyant ne doit pas être ébranlé par les épreuves parce qu'on est destiné à cela. On est destiné à l'opposition, à l'adversité. Quand elle arrive, est-ce que c'est une surprise? Ça ne devrait pas être une surprise. On est destiné à en vivre des épreuves et de l'opposition. Mais il devrait y avoir un encouragement à ça, de savoir que oui, on a déjà été averti d'avance. 1 Pierre, ben justement, 2, verset 20-21. Mais tournez, on va le lire, 1 Pierre 2. On va terminer avec ce passage-là. Versets 20 et 21. On va même décaler un petit peu plus loin que 21, là. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Le verset 21 nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, afin qu'on suive les traces de Jésus. Alors, si je souffre en faisant le bien, ben qu'il en soit heureux, car c'est à cela qu'il a été appelé, le croyant. Dieu donne des forces particulières aux croyants qui est éprouvé. Par exemple, 2 Corinthiens 12, 9 et 10, Philippiens 4, 12 et 13. Je vais juste vous donner des citations. La souffrance pour Christ sont une source de bénédiction présente et éternelle. On aurait déjà vu Jacques 1, par exemple, verset 4, 1 Pierre 1, 17, 1 Pierre 5, 10. Là, je passe par-dessus parce que le temps nous manque un petit peu. 2 Corinthiens 4, Apocalypse 7. Mais le témoignage fidèle que l'on vit dans l'adversité, Dieu n'est pas oublieux, Dieu n'est pas insensible. On voyait tantôt dans Pierre que les yeux, que les oreilles du Seigneur sont sensibles à ses enfants, même qu'ils souffrent aussi à cause d'un témoignage fidèle. Oui. Oui. Oui, et si, et comme tu dis, si le texte nous disait, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si j'ai fait des fautes et puis que je souffre, mais il n'y a pas grande gloire à tirer de ça. Si je suis fouetté 40 coups moins 1 parce que j'ai fait le mal, par exemple, à cette époque-là, mais il n'y a pas de gloire à souffrir à cause de ça. Mais si je souffre parce que j'ai fait le bien, c'est une autre affaire, par exemple. Je pose une question parce que parallèlement, je pensais à une autre question. Un chrétien qui ne souffre pas d'adversité, est-ce que c'est normal? Quelle question je dois me poser si j'ai pas d'adversité? Je ne veux pas être trop, trop systématique en disant si tu ne vis pas d'adversité, c'est parce que... Mais est-ce qu'on peut se poser la question, si je ne vis pas d'adversité, oui, c'est ça, mais et pourquoi? Est-ce qu'un chrétien qui vit jamais d'adversité, quel constat il devrait peut-être faire dans sa vie? Il témoigne pas? Peut-être. Oui. 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 Je pense qu'on peut l'anticiper, l'adversité. Hein? Avant même qu'elle arrive, on le sait où elle se cache. l'adversité. On sait probablement que si je témoigne, si je fais telle action, si je fais telle chose, ça va susciter telle affaire. Puis peut-être qu'on ne la fait pas pour ne pas susciter l'adversité. Dieu nous encourage à faire le bien. On voyait le texte d'un Pierre 5 tantôt. Dieu nous encourage à faire le bien, à avoir un témoignage fidèle. Et je ne suis pas en train de jeter ça sur l'autre côté en disant « chercher l'adversité », mais les paroles de Jésus disaient « je vous ai sorti du monde ». Vous êtes appelés à l'extérieur du monde. Et si je vis comme ce que Dieu me demande de vivre à l'extérieur du monde, nécessairement, le monde ne m'aimera pas. Le monde n'aimera pas mon témoignage, n'aimera pas mes paroles. Pas toujours, pas tout le monde. Et il va y en avoir de l'adversité. Et peut-être si j'en ai jamais, peut-être je devrais regarder ma marche avec Dieu. Et sans que je suis en train de dire des conclusions, là. Mais je suis en train de dire qu'on devrait regarder nos vies. La souffrance pour Christ, je disais tantôt, est une bénédiction en quelque sorte pour la vie, même présente et éternelle. Et le croyant peut être plus que vainqueur par Jésus-Christ. Est-ce que c'est encourageant, ça? Parce que je vis en Jésus-Christ, le croyant est toujours vainqueur. Je serai toujours vainqueur. Jésus disait qu'il a vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde, il a déjà vaincu le diable. Alors, si je suis devant de l'adversité, quel encouragement j'en tire? Mon père a déjà gagné. Puis on connaît la fin de l'histoire, c'est ça. On sait déjà que l'adversaire qui est devant moi, il est déjà vaincu. Ça, c'est encourageant. C'est encourageant à marcher. C'est encourageant à ça nous encourage à persévérer, à continuer. Puis, on lisait en tout début, tantôt, le Seigneur qui vient voir Paul, qui est en prison, puis il dit, Paul, continue. Prends courage. Tu vas rendre témoignage encore. C'est pas fini. Et j'imagine que ce temps-là que le Seigneur a eu avec Paul, on l'a probablement craqué assez pour qu'il ait continué de le faire, de continuer d'avancer. Parce qu'il sait, Paul avait cette certitude-là, justement, que la victoire était déjà gagnée et que ça devrait être aussi notre certitude à nous. Dernière question, commentaire en terminant? OK, mais je vais prier. Seigneur, on vient devant toi pour te louer encore, pour ta grandeur. On est content, Seigneur, de constater ta toute-puissance sur l'ennemi, de savoir que tu l'as vaincu, que tu l'as vaincu par ta mort, que tu l'as vaincu, Seigneur, par toute cette œuvre d'amour que tu as manifestée envers nous. Et merci parce qu'on t'appartient. Merci parce que tu nous as sortis du monde. Merci parce que tu nous as donné la vie éternelle. Qu'on a l'occasion de marcher pour toi, de marcher, Seigneur, dans cette mission que tu nous confies. Et même l'adversité, Seigneur, est pas, même l'adversaire n'est pas assez effrayant pour nous arrêter de marcher. Parce que quand on garde les yeux fixés sur toi, Seigneur, on est stimulé, notre foi est grandissante. Et en même temps, Seigneur, on veut que tu viennes faire le point dans nos vies. On veut que tu viennes nous éclaircir à savoir là où on en est. Comme on se posait la question tantôt avec ces hommes du temps de Daniel, qu'est-ce qu'on aurait fait nous aussi, Seigneur, étant dans une situation semblable? On veut marcher avec fidélité. On veut continuer de toujours garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.